Méli Méloman.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà. Pas encore. Maintenant.
Et maintenant, c'est Méli Méloman sur Divergence FM, l'émission classique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre monumentale. Alors, je suis un petit peu embêté parce que je dispose d'une demi-heure, alors je ne vais pas faire trop de blabla, pour vous parler d'une œuvre qui, elle, dure à peu près une heure et demie, elle toute seule, hein, la troisième symphonie d'un certain Gustav Mahler. Peut-être les mélomanes montpelliérains ont repéré que ça va être joué à l'Opéra de Montpellier le 8 février. Donc 8 février 20h, c'est Michael Schulwand qui dirigera. Alors, Gustav Mahler, hein, des petites choses un peu pour cette symphonie que, si vous ne connaissez pas, vous donnez peut-être envie d'y aller. Hein, et puis voilà, et puis vous éclairer et donner un peu un éclairage sur cette œuvre-là. Alors, cette symphonie, elle a été composée en 1895-1896. Et il faut remettre dans l'époque, hein, qu'est-ce qui se passe 1895? Bah, c'est les débuts du cinéma. Eh ouais, les frères Lumière ont fait leur première projection. C'est aussi l'art qui vient, j'ai envie de dire, peut-être les ancêtres de la pub. Hein, on a en Autriche un certain Alphonse Mucha, hein, qui commence à dessiner des affiches, et il y a des affiches publicitaires, notamment pour une marque de chocolat qui existe toujours. Voilà. Donc on a, vous voyez, c'est des choses qui sont un peu annonce notre XXe siècle. Hein, c'est le XXe siècle, il naît. Et puis bien sûr, c'est la fée électricité est arrivée et s'installe dans toutes les grandes villes. Mahler, à l'époque, lui, il est au théâtre de Hambourg. Et le théâtre de Hambourg s'est modernisé tout récemment. C'est un théâtre où il y a l'électricité et il n'y en a pas beaucoup. Hein, et puis, on se dit, dommage que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Un certain Thomas Edison a inventé le phonographe il y a peu. Hein, en 89, il a présenté ça à l'exposition universelle qui se tenait à Paris. Mais bon, ce n'est pas encore très utilisé. Et puis, vous savez, c'est juste des rouleaux à l'époque. Hein, ce n'est pas encore les galettes plates qu'on a pu connaître pendant quelques décennies après. Une, deux minutes de musique ou de paroles, on pouvait enregistrer dessus, pas plus. Puis après, ça a été les 78 tours, bon, trois minutes. Hein. Dommage, parce que du coup, ben Mahler, on n'a pas d'enregistrant de Mahler qui dirige. Parce que Mahler était aussi un chef d'orchestre, un grand chef d'orchestre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à cette époque-là? Ah oui, quand même, que je précise, on va situer dans l'histoire de la musique, allez, un tout petit peu, les contemporains. Brahms, voilà, un autre grand compositeur allemand. Bah, Brahms, il est vieillissant. D'ailleurs, Mahler va lui rendre visite pendant ses deux étés de 95 et de 96. Et il décédera l'année d'après. Hein. Pas très âgé, hein. Il avait 67 ans. Non, 64 seulement, vous voyez. Donc, et puis, un des prédécesseurs de Mahler, hein, qui était un grand compositeur, Bruckner. Bruckner décédera pendant ces années-là, en 96, hein, âgé de 72 ans quand même. Wagner, lui, est mort il y a déjà une douzaine d'années. Hein, et puis il y a un compositeur qui est le cadet de Mahler de 4 ans. J'aime bien qu'on puisse repérer comme ça ses correspondances. Richard Strauss, l'été où, les deux étés où Mahler va composer sa troisième symphonie, Richard Strauss, lui, il compose Ainsi par les Zarathoustra. Vous avez déjà entendu cette œuvre, vous savez, qui démarre avec l'orgue et puis tout un orchestre qui est spectaculaire. Voilà, ben les deux œuvres sont contemporaines dans leur composition, complètement. Mahler, alors qu'il n'a pas vécu longtemps, Mahler, hein, 1860-1911. C'est court, 51 ans. Hein. Alors, je vous disais, Mahler, d'abord un grand chef apprécié, comme un grand chef, on va tout de suite en parler un peu plus. Mmh. Voilà, Gustave Mahler. Alors ça, c'est le début de la troisième symphonie. Alors, ce qui est... On n'imagine pas, quand on entend ça, la taille de l'orchestre que Mahler a demandé. Vous entendez des cors. C'est les cors qui ouvrent la symphonie. Alors d'habitude, un orchestre symphonique, il y a 2-3 cors. 8. Mahler, il voulait 8 cors. Alors là, le premier mouvement, ça démarre progressivement, donc on n'entend pas tout l'orchestre. Mais c'est un des reproches que ses contemporains faisaient à Mahler, c'est que... Mais il lui faut des effectifs énormes pour faire trois fois rien. Enfin, et puis, à d'autres moments, ça se déchaîne et ils ne font pas trois fois rien. Ils font beaucoup de choses, l'orchestre. Mais on lui a beaucoup reproché. Il était très apprécié en tant que chef, que ce soit à Hambourg ou plus tard à Vienne. Mais comme compositeur, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué pendant toute sa carrière. Pour ça, je veux juste vous lire un petit témoignage d'un chef qui a été son disciple, on pourrait dire, Bruno Walter, qui est un jeune chef. Il a rencontré Mahler, il avait 18 ans, il était son cadet d'une quinzaine d'années. Et il a écrit sur Mahler, parce que ça a été pour lui quelqu'un de fondamental dans sa vie de chef. Bruno Walter, lui, est mort en 62, donc il a eu le temps de diriger beaucoup d'œuvres de Mahler. Quel que fût le lieu, une réaction passionnée du public était le plus souvent la règle. Il parle de la création des symphonies de Mahler. Lors de l'exécution de ses œuvres, le pouvoir de fascination découlait à la fois de l'hostilité et de l'enthousiasme qu'elle suscitait. L'impression que laissa sa troisième symphonie lors du concert qu'il dirigea au festival de Krefeld de l'Allgemeine Deutsche Musikverein en 1902 fut irrésistible et pour la première fois incontestée. Elle l'imposa définitivement dans le monde de la musique contemporaine. Cependant, au cours des années qui suivirent, les exécutions de sa symphonie entraînèrent bien souvent de violentes manifestations et contre-manifestations. Auprès de ses amis, Mahler les accueillait avec la conviction maintes fois réaffirmée « Mon heure viendra ». Et son heure est venue, mais elle a mis du temps et ça a été laborieux. Alors, un petit peu sur les circonstances de composition de cette symphonie. Une symphonie fleuve, qui est une symphonie où Mahler va donner la parole, si je puis dire, à la nature. Ce qu'on entend, c'est la nature qui s'éveille. Une nature, mais qui n'est pas une nature bucolique comme ça, gentille pour les... c'est pas la nature de Walt Disney, allez, on va le dire comme ça. C'est une nature puissante, sauvage, qui va se réveiller. Alors là, il a fait une symphonie, ce qu'on appelait une œuvre à programme, un petit peu. C'est-à-dire que chaque mouvement veut raconter quelque chose. Mais en même temps, il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que juste de l'anecdote, à tel point qu'il a changé les titres de son programme je ne sais combien de fois. Il n'a pas arrêté de le changer. Notamment, à un moment donné, c'est « Ce que me racontent les rochers ». Les rochers, des montagnes. Alors, il s'est isolé pour composer. Il était au bord d'un lac, Steinbach. Et puis, il s'isolait dans une petite maison, ce qu'on appelait le Häuschen, la petite maison, la petite cabane dans laquelle il composait, qui était à part de la maison où il résidait avec ses sœurs pendant cette période de vacances, au bord du lac. Et il lui fallait surtout le silence. À tel point que ses sœurs et son amie, une de ses amies qui était aussi là, faisaient la chasse aux paysans, aux enfants, aux chiens, interdits de venir se baigner dans le lac à côté de la maison où composait Mahler. Il lui fallait du silence, quelque chose d'un peu tyrannique. Peut-être aussi rappeler quand même, c'est un jeune homme de 35 ans. Enfin, jeune homme, c'est plus un jeune homme, un jeune adulte, on va dire, de 35 ans qui compose cette symphonie. Je trouve que c'est toujours important de se rappeler. Parce que vous savez, les compositeurs, des fois, on les voit toujours sur la fin de leur vie, toujours âgés. Non, non, c'est un jeune homme, un jeune compositeur de 35 ans. Et il est pris dans cette pulsion créatrice. Et lui-même, quand il raconte, il dit c'est compliqué, je suis envahi par cette musique, elle s'impose à moi, je ne suis pas sûr d'y arriver. Il a des moments de grande joie, des moments de grand désespoir. Ça va être 2 années de travail, 2 étés de travail. Entre-temps, il a sa carrière de chef d'orchestre, de directeur d'opéra, qui doit mener. Et ça, c'est pas rien. Alors, Et ça va l'occuper passablement parce qu'il va aussi avoir des grandes amours pendant cette époque-là. Notamment une des chanteuses qui est arrivée à l'Opéra de Hambourg, Anna von Miltenburg. Elle a une belle voix, mais Mahler va s'en occuper personnellement, va passer des heures à répéter avec elle au piano pour lui faire travailler ses rôles de façon très importante. Allez, une autre grande chanteuse. Là, je vais vous mettre le quatrième mouvement de la symphonie. C'est une voix de contralto qui chante. Alors là, je suis allé vous chercher un enregistrement un petit peu ancien, date de 1945, une bande radio, parce que la chanteuse, c'est une grande, grande mahlérienne, une anglaise, Kathleen Ferrier. Et le chef, c'est un chef anglais, Sir Adrian Boult. 1947, Kathleen Ferrier, le quatrième mouvement de la troisième symphonie. Extrait du quatrième mouvement de cette symphonie, cette troisième symphonie de Gustav Mahler, avec Kathleen Ferrier, la voix de Kathleen Ferrier, et puis le chef d'orchestre Sir Adrian Boult. Alors, ce quatrième mouvement, dans le programme, une des versions du programme, Mahler, c'était « Ce que me raconte l'homme ». Alors, il y avait une succession comme ça. Il y avait « Ce que me racontent les pierres », c'est le premier mouvement. Et puis ce que me racontent les fleurs, deuxième mouvement. Ce que me racontent les bêtes, ce que raconte l'homme, c'est ce qu'on vient d'entendre. On arrive au cinquième mouvement, ce que racontent les anges. Et là, c'est un chœur d'enfants avec des cloches, je vous l'ai fait entendre dans une émission précédente. Et puis, le dernier mouvement, ce que me raconte l'amour. Donc, vous voyez, il y a une progression comme ça, on peut raconter, c'est pas des anecdotes, mais c'est plutôt la question de l'unité, peut-être, de la nature et de l'homme. Quelque chose dont on a peut-être bien besoin de se rappeler par les temps qui courent. Alors, ça semble très sérieux, très grave, très profond, mais Mahler était aussi quelqu'un qui avait de l'humour. On l'entend plus dans d'autres œuvres. Et il parle pourtant d'humour à partir de cela. Un propos rapporté par une grande amie de Mahler, qui disait, parlant de l'ordre des mouvements de cette symphonie, « 5 sont humoristiques. Seuls 2 d'entre eux, le 5e et le 7e, ce que me raconte la nuit et ce que me raconte l'amour, sont profondément sérieux. À quel point l'humour sera compris en dernier, j'ai pu m'en rendre compte aux réactions d'un ami à qui j'ai joué l'œuvre. La nuit lui a fait une très forte impression, tandis qu'il ne voulait pas admettre le mouvement suivant des anges, qu'il trouvait trop léger après une telle solennité, dont il n'a pas compris. La minorité d'ailleurs comprendra qu'ici, l'humour, doit-on dire des idées les plus hautes qu'on ne peut plus exprimer autrement. » Alors, j'espère que si vous allez écouter le concert, vous serez attentif à cet humour qu'il y a dans la musique de Mahler. Alors, il parle de 7 mouvements-là. Ne vous inquiétez pas. Effectivement, à un moment donné, il a pensé à 7 mouvements. Mais le 7e mouvement, c'est devenu la 4e symphonie. Hein, c'est un morceau qu'il a réutilisé dans la 4e symphonie. Alors, Mahler, si vous découvrez Mahler, vous avez envie de découvrir, Mahler, c'est toute une aventure. Je vous ai dit au début de cette émission, à l'époque du 78 tours, difficile d'enregistrer Mahler. Et puis Mahler, on regrette qu'il n'y ait pas eu d'enregistrement par lui. Juste avant, quelques années près, peut-être qu'on aurait pu enregistrer ce qu'il dirigeait. Alors le problème, c'est quoi la bonne version? La version de référence de la 3e symphonie? Oulalalala. Impossible à dire. Les chefs qui ont connu Mahler, qui ont un petit peu enregistré, qui ont travaillé avec lui, bah certains avaient des styles tellement différents et ils trouvaient que les deux étaient très bien. Entre Oscar Fried, par exemple, qui nous a laissé un enregistrement de la 2e symphonie, et Bruno Walter, qui nous a laissé plusieurs symphonies, pas toutes, pas la 3e notamment, le style était fort différent. Alors, une version de référence difficile. Si vous cherchez, j'ai fait une petite recherche, allez, la 3e symphonie de Mahler, entre les enregistrements studio, les captations en public et tout, allez, 140 enregistrements à peu près, on a pu recenser. Et il y en a sans doute qui nous ont échappé. Et puis avec l'ère d'Internet, maintenant, c'est des captations de concerts qui ne sont même pas éditées au disque. Donc, le cap des 150 versions est largement dépassé, largement dépassé. Tous les chefs s'y sont intéressés, beaucoup de grands chefs s'y sont intéressés, avec des intégrales, Bernstein, Solti, Abbado, Simon Rattle, Bernard Haitink, Raphaël Kubelik, Zinman, Eliyahu Inbal. Bon. Et puis, certains, par contre, très grosse surprise, ils ne se sont pas du tout intéressés à ces compositeurs. Et pas des moindres. Pour les mélomanes, quelqu'un comme Wilhelm Furtwängler, qui a été le chef à Berlin pendant des années, non. Jamais joué Mahler. Karajan, si peut-être une fois de temps en temps, mais bon, ça n'a pas du tout été un compositeur qu'il a cherché à défendre. Pourquoi? Mystère. Alors, un chef qui s'y est intéressé, même s'il n'a pas enregistré d'intégrale, c'est Dimitri Mitropoulos, un chef grec. Alors, je vais vous faire entendre le final de la symphonie par lui. Et puis j'ai envie de vous signaler quand même au passage une nouveauté qui est sortie récemment par un autre chef grec, Théodore Kourentsis, qui a enregistré une 6e symphonie de Mahler. Et j'écoutais ça tout récemment, j'ai découvert ça récemment. C'est assez extraordinaire. Et je me disais en l'écoutant, il trouve la clarté, j'ai l'impression qu'il trouvait la clarté à laquelle Mahler était très très attaché. La qualité du son était pour Mahler quelque chose de très important. Il avait des projets comme à l'image de Wagner, de faire baisser la fosse d'orchestre pour pas que les instruments soient trop présents. Il indique des effets dans le lointain. Allez mettre des trombones dans le lointain. Comment vous faites ça sur un plateau? Ah, ben voilà. Donc, Théodore Couronnesis, nouveau chef qui s'intéresse à Mahler, à surveiller de près. Pour l'instant, on n'en a qu'une. Je pense qu'on va, au fil des années, voir une nouvelle intégrale très intéressante arrivée. Allez, je vous quitte pour l'instant avec Dimitri Mitropoulos. Un enregistrement qui gratouille un petit peu, c'est de 1956 avec le New York Philharmonic. Et c'est, alors, spécificité de Mitropoulos, il va vite. Pour vous donner une idée, son premier mouvement de la symphonie fait 25 minutes et des poussières. Alors que chez Charles Adler, par exemple, qui est le premier chef qui a enregistré au micro-sillon, c'est 37 minutes. 12 minutes d'écart sur ce mouvement. C'est pas rien. Allez, Dimitri Mitropoulos, à toi! Voilà, troisième symphonie de Mahler. Vous allez pouvoir l'entendre en direct à l'Opéra de Montpellier le 8 février à 20h, sous la direction de Michael Schoenwandt. Allez-y, vous verrez, c'est une belle expérience pour découvrir la musique et se plonger dans un monde extraordinaire. D'autres choses extraordinaires et d'autres belles découvertes, j'espère pouvoir vous en faire dès la semaine prochaine. À bientôt.